Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du Trisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Du Trisac.
Comme je disais avec Richard, je salue le travail d'Émilie Dubreuil de Radio-Canada là, sur le cas du docteur Martin Drapeau, chercheur en psychologie, qui est avec nous. Monsieur Drapeau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
Merci d'être avec nous. Vous, vous êtes prof à l'Université McGill depuis 2003, puis vous êtes en congé de maladie. Que s'est-il passé?
En fait, j'ai été en congé de maladie. Je suis retourné au travail avec des tâches, enfin, un dégagement administratif sur ordre médical. Donc, okay. Ce qui s'est passé, c'est essentiellement, si on pouvait résumer ça le plus simplement possible, un conflit idéologique qui s'est transformé en harcèlement psychologique qui a été documenté, puis qui a dégénéré de façon assez rapide, assez impressionnante. On est toujours surpris par peut-être la haine que ça a dû dégager.
Wow, vous êtes donc, bon, vous êtes bon pour résumer les choses, vous là, mais tout ça a commencé avec le projet de loi 32, qui est devenu une loi là sur la liberté académique en milieu universitaire. Et vous avez,
j'ai bien hâte de l'avoir appliqué cette loi-là.
Ouais, ben vous voyez, c'était ma dernière question là, vous me précédez parce que en décembre 2020, vous avez publié une lettre dans le Devoir, intitulé « Diversité ou discrimination ». Que disait cette lettre exactement?
En fait, c'était pour dénoncer un système de pointage. Et puis malheureusement, c'est un système de pointage qui, chez nous, a été laissé de côté, heureusement, mais qui a été repris notamment par les fonds de recherche du Québec. On pourra peut-être en reparler, puis par d'autres organismes. Mais c'est un système de pointage qui visait à favoriser la diversité, ce qui est en soi excellent, on s'entend là-dessus, mais qui faisait d'une façon qui était, à mon avis, un peu maladroite, c'est-à-dire qu'on donnait des points aux gens en fonction de leur appartenance culturelle, religieuse. On leur demandait aussi d'adhérer à une certaine vision que moi, je considère plutôt radicalisée de la justice sociale. Et en fonction de leur adhésion à ces principes philosophiques, sociologiques, sociétaux, politiques, on leur donnait plus ou moins de points. Ça impliquait aussi qu'on devait, au nom de la diversité, par exemple, questionner les gens sur des éléments qui sont pourtant très personnels, qui ne nous regardent aucunement, par exemple, à savoir si une personne pouvait potentiellement être non-binaire ou donc avec ce système-là, on faisait en sorte qu'on donnait plus de points. Et puis ce système de pointage avait un total de points qui était à toute fin utile, presque équivalent à ce qu'on valorise habituellement, c'est-à-dire une expertise clinique, une expertise en recherche, du bénévolat et ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'ai dénoncé.
Et la réaction à cette lettre-là, M. Drapeau, ça ressemblait à quoi?
Pas très bonne. Pas très bonne. Donc, parce que j'ai aussi republié une autre lettre pour clarifier ma position sur l'enjeu, mais et puis quand j'ai l'occasion, comme vous le voyez, je prends la parole pour pouvoir en parler, parce que c'est un peu ça qui manque, on n'a pas l'occasion d'en discuter. Donc, on se heurte à une idéologie, je pense que c'est la façon la plus simple de décrire où certaines personnes estiment avoir une espèce de supériorité morale, donc ils ont déjà réponse à tout. Ce qui dit que quand on n'est pas en accord avec certaines des façons de faire, parce que l'enjeu, ce n'est pas nécessairement l'objectif ultime que je partage, mais vraiment les façons de faire. Mmh. Si on n'est pas d'accord avec ça, bien, on devient un misogyne, un sexiste, un transphobe, un trumpiste. J'ai eu le trumpiste.
Ah oui. Wow. Ouais,
donc j'ai eu un peu tous les épithètes comme ça qui me sont passées par la tête. Donc, ça a rapidement dégénéré, puis ça devient à ce moment-là plus un enjeu académique, parce que ce sont des questions qu'on devrait pouvoir débattre en milieu universitaire, mais ça devient des enjeux qui sont tout à fait personnalisés.
Et là, Monsieur Drapeau, ce que je comprends, là, c'est que vous étiez pas nécessairement en conflit, là, mais en désaccord avec certains étudiants, mais aussi avec certains de vos collègues, dont un qui vous avait demandé de l'aider à annuler une conférence d'un psychologue, sexologue, parce que votre collègue le jugeait transphobe, et vous avez refusé, puis il vous en a voulu aussi.
Oui, en fait, c'était un collègue qui avait certaines croyances, et puis qui, en fonction de ses croyances à lui et ses connaissances de ce chercheur conférencier-là qui devait venir à l'Université McGill, estimait qu'il était transphobe. Moi, je ne connaissais pas le chercheur. J'ai vu par après qu'il n'était pas transphobe. Par contre, l'idée même de devoir censurer quoi que ce soit dans un milieu universitaire qui peut faire l'objet d'un débat, d'une question d'un échange, pour moi, ça me semblait incohérent avec la mission de l'université.
Ouais.
Et puis ça, malheureusement, je pense qu'on de plus en plus, on voit des directions universitaires qui ne savent pas trop comment gérer la situation et puis qui tournent le dos à ce qui fait qu'une université est une université. On le voit d'ailleurs à l'Université d'Ottawa, encore une fois, on a beaucoup parlé de l'affaire Lieutenant Duval, qu'on devrait même appeler l'affaire Jacques Frémont, selon moi, mais il y a eu tout un coup de cafouillis, un autre à l'Université d'Ottawa, quand ils ont voulu faire venir l'ambassadeur de Chine, puis qu'on a interdit les caméras. Puis pour moi, ça, c'est grave, c'est très grave.
Ouais.
Parce que l'université, c'est un endroit de débat, c'est un endroit de réflexion, c'est ouvert à tous. Il ne devrait pas y avoir de porte close dans l'université. Ça appartient à tout le monde. D'ailleurs, c'est financé par tout le monde. Donc, il y a comme une confusion qui s'installe quant à nos objectifs, notre raison d'être. Et puis, j'ai pas l'impression, malheureusement, que ça va changer tant qu'il n'y aura pas des directions universitaires qui vont être remplacées. Parce qu'on retrouve, on se retrouve dans une situation où finalement des universitaires jouent les activistes, font de la politique. Et si M. Frémont, et c'est vrai pour tous les dirigeants universitaires, s'ils veulent faire de la politique ou de l'activisme, ils devraient, à mon sens, bien évidemment, quitter l'université et se faire élire démocratiquement comme tous nos députés.
Exact. L'université, c'est un lieu de savoir et de débat. C'est pas ce que vous avez... à quel moment ça a changé, M. Drapeau?
Écoutez, pour moi, ça a changé environ 2 ans. Pour mes collègues, parce que ça fluctue forcément énormément d'une université à l'autre. C'est un mouvement qui vient des États-Unis. Donc, l'Université McGill peut-être a été influencée plus rapidement que d'autres universités. Certains départements, certaines facultés sont influencées aussi par cette façon de voir le monde aussi, plutôt que d'autres. Donc, chez moi, dans mon unité, je dirais 2 ans, 2 ans et demi, peut-être 3 ans, tout au plus. Mm. Dans certaines unités, en service social, en littérature, dans d'autres universités, ça a commencé plus tôt. Donc, c'est certainement une tendance qui se généralise de plus en plus.
Et le fait que vous soyez un homme blanc francophone, à quel point ça a joué contre vous?
Ah, ben ça, j'ai l'impression que des fois, c'est le péché ultime, vous savez. Je vais vous raconter une histoire. C'est-à-dire que quand j'ai vécu ce que j'ai vécu à l'université, donc il y a eu du harcèlement, il y a eu une enquête, évidemment, un harcèlement qui a été conclu, je me suis tourné vers l'Association des professeurs. On m'a donné un conseiller. Donc, nous, à l'Université McGill, on n'est pas syndiqué. On a une association. Je me suis tourné vers l'association. On m'a donné un conseiller. Et puis, cette dame, donc, j'ai raconté mon histoire. J'ai dit, écoutez, j'ai besoin d'aide. C'est pas normal qui se passe sur le plan personnel, professionnel, mais c'est pas normal ce qui se passe dans l'université plus généralement. Il m'a expliqué que, alors, vous savez, Dr. Drapeau, vous êtes un homme, les hommes ont instauré une société de tout temps patriarcale, donc c'est pas clair qu'il puisse y avoir du harcèlement ou de la discrimination envers un homme. Donc c'est la réponse à laquelle j'étais confronté. Du même sort, elle m'a dit, vous savez, vous êtes francophone, on pourrait faire valoir que les francophones sont une minorité au Canada, mais au Québec, vous êtes une majorité. Donc, c'est pas clair pour moi qu'un francophone puisse être faire l'objet de discrimination et harcèlement au Québec.
Ouais.
Donc c'est complètement aberrant. Donc, on se retourne vers ceux qui, en principe, devraient nous soutenir, et puis on voit finalement que le système est tellement gangréné par cette culture-là, par cette façon de voir-là, que finalement, il n'y a plus de réflexion logique. Même la recherche devient de l'activisme.
Ouais, vous avez fait référence là au Fonds de recherche du Québec qui pose des questions insensées à des candidats ou des candidates là qui veulent de l'aide financière. Là on veut savoir. Il me semble que ça va à l'encontre de ce que disait Martin Luther King en 1963. On veut pas. C'est pas la couleur de ta peau, c'est ton caractère qui doit primer. Mais là, vous vivez absolument le contraire là, à l'Université McGill.
Oui, mais les fonds, c'est-à-dire on peut citer Martin Luther King, mais je veux dire, la mission même, par exemple, des fonds de recherche du Québec, c'est de soutenir la recherche, c'est pas de faire de la politique aérienne et puis de l'activisme. Et puis, ce faisant, il y a quand même une contradiction inhérente, c'est-à-dire qu'on se retenue, on oublie de parler de l'enjeu principal. Donc, par exemple, on demande aux étudiants, quand ils font une demande, indépendamment du sujet dans lequel ils évoluent, que ce soit en physique, en chimie, dans n'importe quel domaine, de démontrer, une espèce d'adhérence ou en quoi les critères d'équité diversité s'appliquent à eux et puis aussi l'objectif durable, le développement durable. Mais, on cherche des activistes. Et puis les gens, les étudiants, il y a une étudiante, je disais récemment, qui disait, moi, vous savez, je suis pas très lentille, je suis trop pauvre pour faire du bénévolat, pour faire de l'activisme. Il faut que je travaille, moi, pour payer mes études. Donc, cette personne-là va être pénalisée, si bien que finalement, on se retrouve à favoriser non pas des gens qui sont ici de différents groupes qui sont peut-être plus marginalisés, mais des gens qui finalement ont les moyens de se payer le luxe de faire de l'activisme, du bénévolat. Et on scotomise donc l'enjeu principal, le vrai enjeu, qui est la pauvreté. C'est pas nécessairement la diversité culturelle, c'est la pauvreté l'enjeu.
Là docteur Drapeau, il nous reste peu de temps, là, mais ce que je comprends aussi, là, c'est qu'il y a une réaction à cette situation, ce mouvement woke. Vous avez des collègues du Manitoba, de la Colombie-Britannique, qui a, je lisais dans le texte d'Émilie Dubreuil, Gina Cormier, là, qui a sondé des universités partout au Canada, et les étudiants se sentent mal à l'aise d'aborder certains sujets, mais il y a une réaction, là, il y a un contre-coup là, à ce mouvement-là.
Oui, aussi, comme pour tout le reste, on le voit bien du côté des universités américaines, donc les gens commencent à réagir, mais chez nous, plus localement au Québec, peut-être un peu plus ailleurs au Canada aussi, ce que moi, je constate, c'est pas nécessairement une résistance ou une réponse nécessairement du corps professoral qui, malheureusement, semble très apathique. Donc, les gens veulent pas s'en mêler, mais ce sont de plus en plus les étudiants qui demandent, et ils ont tout à fait raison, le droit de faire des erreurs, le droit de discuter, le droit de débattre. Donc, c'est une approche qui, pour moi, est un peu rassurante dans la mesure où ce sont vraiment les étudiants, donc ceux que l'on devrait servir à toute fin utile, qui de plus en plus demandent le droit de pouvoir, en fait, d'avoir accès à une éducation de qualité. Comme Gina Cormier disait dans une entrevue, je pense que c'était avec, peut-être avec vous, une de vos collègues, qui disait, ben, moi, j'ai été à l'université pour débattre, pour apprendre. Si j'avais voulu me faire dire quoi dire, je serais allé à l'église. à l'église.
Ben oui.
Donc, c'est des étudiants qui, de plus en plus, font la demande.
Est-ce que l'enseignement vous manque?
En fait, je continue à enseigner, je le trouve de plus en plus difficile, ben, même particulièrement difficile. C'est un emploi qui est rendu un peu, disons, curieux. C'est certainement très différent de ce que c'était il y a quelques années. On marche beaucoup plus sur les œufs. On est porté à éviter certains sujets parce qu'on se dit que ça va dégénérer, ça va générer d'autres conflits qui sont, encore une fois, idéologiques au départ, mais qui deviennent très rapidement personnalisés, puis même très, très aimés parfois.
On vous accusait de rendre inconfortables les étudiants. Moi, je me disais, inconfortable, c'est rouler en Kia. Je comprends pas cette accusation-là dont on vous affuble.
Ben, écoutez, ça, c'est le nouveau discours qu'on entend. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants comme ça qui jouent les curés, qui croient être dotés d'une moralité exemplaire, puis qui estiment pouvoir décider non seulement ce qui est la bonne façon de penser, mais aussi de décider ce qui peut être dit ou débattu, puis ils le font de façon agressive, et quand ça marche pas, ben ils se replient sur ce fameux « je suis offensé, je suis inconfortable », comme si ça devait suffire sur notre plan argumentaire pour clore un échange.
Quelles sont vos prochaines étapes, docteur Drapeau?
C'est de continuer. C'est-à-dire que sur le plan de la recherche, on veut développer des programmes qui favorisent l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux idées des autres. On veut développer des programmes aussi pour favoriser l'apprentissage, ce que ça implique, le débat universitaire. Donc, on veut à quelque part, et ça va sembler pompeux un peu, mais on aimerait bien ultimement pouvoir réhabiliter l'université pour qu'elle redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire qu'un endroit, où la recherche de la vérité prime, où on peut débattre.
Êtes-vous laissé à vous-même? Est-ce que les profs d'université manquent de solidarité?
Je dirais plus qu'ils manquent de colonne pour franchement. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui prennent la parole, mais il y en a plusieurs qui ne veulent pas s'impliquer. Écoutez, ils ont bien vu ce qui m'est arrivé à moi comme à d'autres. Donc, ils se disent, je ne voudrais pas que ça m'arrive. Et surtout chez les jeunes professeurs qui sont beaucoup plus vulnérables, ils n'ont pas encore la permanence. Donc, souvent, ces gens-là ne prennent pas la parole. Donc, on n'a pas des professeurs qui sont activement impliqués dans ces enjeux-là, qui prennent la parole. La plupart font comme si de rien n'était, mais on se retrouve en réunion, finalement, où les gens adhèrent sans parler à des idéologies, puis finalement, dans les corridors, ils disent « Ah, ben continue, Martin, continue ce que tu penses. » Mais en réunion, non, ça se passe autrement.
C'est typique. Docteur Martin Drapeau, chercheur en psychologie et homme assez courageux. Monsieur Drapeau, bonne chance à vous. S'il y a des nouvelles, moi, je suis là, c'est un débat qui est important pour la société. L'université devrait être un endroit de savoir, de débat, pas de petits fascistes et de petits sécuré. Je peux pas croire qu'on en soit rendu là.
Eh bien oui, mais merci beaucoup pour votre temps,
Monsieur Isaac. Merci. Au revoir.